enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Important, les enfants pour Dieu. Des fois, on est dans un monde où on a l'impression que les enfants comptent pas, ou c'est pas important. Des fois, certains diront, on donne trop de place aux enfants. Et comment ça se passe avec Dieu? On va regarder plusieurs passages ensemble, de voir comment Jésus a parlé aux enfants, comment il a interagi, comment il a été au contact avec les enfants, pour voir comment essayer de voir au travers des yeux de Jésus comment Jésus regardait les enfants, quel sentiment il avait envers eux. Les enfants au temps de Jésus, vous savez, étaient semblables aux nôtres. Hein. Les enfants au temps de Jésus étaient capables de casser un vase, de jouer au ballon et de casser une vitre, même s'il n'y avait pas de vitre peut-être à cette époque-là, et de faire quelques bêtises. Les enfants, c'était les mêmes. Mais Jésus a réagi d'une certaine manière avec eux. J'aimerais voir déjà dans un premier point, un jour, vous avez trouvé, le 18, il est dit au verset 1er, « À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Ça, c'est une bonne question, hein. C'est une question d'adulte. « Qui donc est le plus grand ?» Et dites-moi, s'il fallait faire un concours ce matin dans l'église, qui est le plus spirituel dans l'église? Ah, je crois que j'ai mes chances. Vous allez dire, ah oh, non, c'est pas moi aussi j'ai mes chances. Moi, je suis plus que vous, je jeune. Non? Vous avez pensé quoi, là, pendant quelques instants, quelques secondes? Qui est le plus spirituel dans l'église? C'est une drôle de question, ça. Vous vous rendez compte que les disciples se posent cette question-là? Non seulement ils se posent cette question entre eux, qui est le plus grand? On va voir ça un peu plus loin. Les disciples vont se poser cette question entre eux, qui est le plus grand parmi nous? Mais là, ils viennent poser la question à Jésus, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus va répondre, et nous avons le verset 2, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme l'un de ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Réalisez la scène. On vient demander à Jésus qui est le plus grand. Et Jésus prend le plus petit, du moins ce que les hommes considèrent comme étant le plus petit. Et il le place au milieu de la scène et il dit, celui qui est comme cet enfant sera le plus grand. Jésus est en train de dire, cet enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. L'enfant est, et puis vous pouvez écrire, valorisé par Jésus. Si vous n'avez pas de stylo, vous pouvez lever la main, on va vous en prêter un avec joie. Si vous avez besoin d'un stylo, levez la main et on va vous en prêter un pour pouvoir combler les vides. L'enfant est valorisé. Jésus donne de la valeur aux enfants et change le regard des adultes envers les enfants qui peuvent comme les mépriser. Mais Jésus dit, cet enfant est le plus grand. Quand on regarde un enfant, c'est important de lui dire et de lui faire comprendre qu'il a de la valeur pour Jésus. Il y a des enfants qui n'ont de valeur pour personne, qui se sentent rejetés, méprisés, abandonnés, et ils ont besoin d'entendre et que nous puissions leur dire de la part de notre Dieu, vous avez de la valeur. Vous avez du prix pour Jésus. Il y a un passage de la Bible que j'aime bien, c'est dans Genèse, chapitre 14, verset 17. Vous savez, c'est l'histoire où Agar quitte la compagnie d'Abraham, Agar est renvoyée avec son enfant Ismaël. Et alors que Agar part et qu'elle parcourt le désert, il arrive un moment où il n'y a plus d'eau dans l'outre. Et on est en plein désert et il n'y a plus d'eau. La scène est dramatique. Agar se dit, nous allons tous les deux mourir de soif. Et c'est pour moi insupportable que de voir mon enfant mourir de soif. Alors il est dit qu'elle plaça son enfant sous un petit buisson et qu'elle se déplaça à la distance d'un jet de pierre en disant dans son cœur, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Et elle est là en train de se lamenter. Et il nous est dit, dans Genèse 21, verset 17, que Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Dans le même verset, deux fois de suite, il est dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Les adultes ne l'ont pas entendu. Sa propre mère n'a même pas entendu la voix de son fils qui s'élève vers Dieu. Il est à une distance d'un jet de pierre. Même le récit lui-même n'a pas entendu, puisque quand on lit le texte, il n'est même pas dit que cet enfant a élevé la voix vers Dieu. Comme si pour les adultes, ce n'était pas important. La caméra est sur Agar et on oublie l'enfant. La caméra est sur Agar qui est en train de pleurer, de gémir et de dire « Je vais mourir et mon enfant va mourir ». Mais quand Dieu intervient, il n'intervient non pas parce qu'Agar pleure, qu'elle gémit et qu'elle se lamente sur son sort, mais il est dit « Dieu a entendu la voix de l'enfant ». Et bien des enfants élèvent la voix en silence, sans que personne ne s'en rende compte, sans qu'aucun adulte ne réalise ce qui se passe. Mais Dieu entend la voix des enfants. Et si les adultes d'aujourd'hui ne sont pas capables d'entendre la voix des enfants, Dieu, lui, l'entend. Et ce qui est marqué à l'extérieur de cette église, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. C'est vrai aussi pour les enfants. Quand un malheureux crie, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition, l'Éternel l'entend. Dans cette église, notre vision, et c'est ce que je souhaite, et j'espère que vous serez de tout cœur avec moi, c'est que l'enfant soit considéré de la même manière que Dieu le considère. L'enfant, ce n'est pas l'église de demain. Vous allez dire, ah bon, pourtant, j'ai toujours cru que les enfants, c'était l'église de demain. Les enfants, ce sont l'église d'aujourd'hui. Dieu ne dit pas, les enfants, c'est l'avenir, c'est l'église de demain. Les enfants, c'est le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Les enfants louent le Seigneur. Les enfants prient. Les enfants rendent gloire à Dieu. Les enfants témoignent. Les enfants font tout ce que les adultes font. Non? Les enfants donnent leur dîme. Non? Font une offrande missionnaire. Les enfants participent à la vie de l'Église. Ce n'est pas l'Église de demain, c'est l'Église. Et il ne faut pas considérer les enfants comme une relève. Ce serait quelque part dire, vous ne faites pas partie de notre bande. Plus tard, peut-être quand vous serez grands. Ils font partie déjà de la famille de Dieu. Dans cette Église, faisons en sorte que l'enfant ne soit jamais, que l'enfant ne soit pas, premièrement, méprisé. Et vous pouvez noter sur le premier point que l'enfant ne soit pas méprisé. Dans ce même passage de Matthieu, chapitre 18, il est dit au verset 10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Jésus nous met en garde. Est-ce qu'on vous a déjà mis en garde? Prends garde à toi. Non? On n'utilise plus cette expression, il n'y a que Carmen dans l'opéra hein, qui utilise cette expression. Prends garde à toi. Non, vous ne connaissez pas ça? Prends garde à toi. Mais là, Dieu met en garde et Jésus nous met en garde. Mettre en garde, ça veut dire nous avertir. Et c'est un avertissement solennel, un avertissement sérieux, que personne ne méprise. Gardez-vous de mépriser. Ça veut dire quoi? Mépriser. Mépriser, ça veut dire sous-estimer. Ça veut dire ne pas considérer. Ça veut dire cet enfant est insignifiant. On n'y fait aucun cas. Et Jésus dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Et là, Jésus nous ouvre une fenêtre sur ce qui se passe dans le ciel, et c'est quelque part quelque chose de mystérieux pour nous, mais Jésus nous dit qu'il y a dans le ciel des anges, et que, si je comprends bien le texte, chaque enfant a son ange qui voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Chaque enfant a son ange qui intercède, qui plaide et qui est là dans la présence de Dieu. Est-ce que vous avez un ange, vous, qui prend soin de vous dans la présence de Dieu? Oui? Qu'est-ce que vous en savez? Il a dit que les enfants... En hébreu, il est dit que les anges sont là pour le service. Hébreu 1, oui. Hébreu 1, que les anges sont là pour le service des saints, c'est vrai. Mais il n'est pas dit qu'on en a un chacun. Mais les enfants, ils en ont un chacun. Enfin, c'est quelque part quelque chose de mystérieux et on ne peut pas faire de grandes doctrines de théologie à partir de ça. Et ce n'est pas sur ce terrain-là que je veux arriver. Mais Jésus, quelque part, leur dit, vous voyez les choses d'une certaine manière. Mais dans le ciel, ça se passe différemment. Vous regardez les enfants comme étant quelque chose de méprisable. Mais dans le ciel, c'est comme il y avait toute une organisation des anges qui sont là spécialement pour chacun de ces enfants et qui prennent soin de ces plus petits. Quand j'étais petit, on habitait en Afrique, vous savez que je suis né en Afrique, pour ceux qui ne le savent pas, vous l'apprenez peut-être maintenant. Et on avait un trajet à faire en brousse, mais moi, j'étais trop petit. Alors, j'ai fait le trajet en avion. Mon père pilotait des avions. Alors, j'étais seul avec mon papa en avion. J'avais un an, à peu près. Mais le reste de la famille a fait le trajet en voiture. Mais c'était des fois au Québec, on se plaint pour les trous qu'il y a dans les routes. Mais là-bas, les trous sont plus impressionnants. Donc, c'était des routes en mauvais état. Et c'était mon grand-père qui conduisait. Vous savez, mon grand-père, c'était un vrai Français. Alors, quand ma mère disait, attention, bon papa, il y a un virage qui est très dangereux, là, dans quelques kilomètres. C'est un virage qui est tellement dangereux, il y a toujours des accidents dans ce virage-là. Puis mon grand-père, il dit, non, mais moi, je sais conduire, il n'y a pas de problème. Un Français, quoi. Hein. Bon. Et alors qu'il est là sur la route, puis bon, lui il était juste de séjour en Afrique, hein. Lui, il habite en France, mais il était venu rendre visite à la famille. Dans la voiture, il y avait donc mon grand-père, ma grand-mère, il y avait ma maman et ma grande-sœur, qui donc avait un peu moins de 2 ans à cette époque-là. Alors voilà que mon grand-père, sur de lui, arrive dans le virage, mais il ne s'était pas douté que le virage était vraiment dangereux. Et la voiture prend pas le virage et ils partent, la voiture va dans tous les sens, elle se retrouve complètement sur le toit. Ma grand-mère se trouve avec plusieurs côtes fêlées, enfin les cassées. Enfin bon, bref, c'était un gros accident. Puis tout d'un coup, on dit, mais où est la petite, ma sœur de 2 ans? Elle n'est pas dans la voiture. Et il regarde, il dit, mais où est-elle? Il s'inquiète, est-ce qu'elle est sous la voiture? Et en fait, en arrivant à sortir de la voiture, il voit ma grande sœur, donc qui avait 2 ans à l'époque, qui était en haut, au bord de la route, en train de regarder la voiture qui était en contrebas. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Comment elle est là? Comment est-ce qu'elle a pu sortir? Elle était dans la voiture, et voilà que maintenant elle est en haut. Ça a été tout un mystère. Je veux dire, mais comment est-ce qu'elle a pu sortir? Puis rien, Elle n'était pas blessée du tout. Enfin, en regardant d'un peu plus près, elle était sur le côté éraflée, un petit peu une écorchure, comme pour marquer un petit peu un souvenir ou une cicatrice pour lui rappeler ce qui s'est passé. Faut dire, mais il semblerait qu'elle soit passée devant la voiture, vous savez, sortie par, et qu'elle se soit retrouvée derrière. C'est mystérieux. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a compris ce qui s'est passé. Et j'ose croire qu'il y a des anges qui protègent aussi les enfants. Et que Dieu est capable de mettre sa main sur les enfants. Il y a peut-être bien d'autres circonstances ou des situations que vous-même avez vécues, et vous dire, mais là, s'est passé quelque chose, c'est incompréhensible. Mais quand on réalise le soin, la protection, vous savez, des fois, on a l'impression que les enfants, ils font des affaires complètement folles. On dit, mais ils sont protégés, c'est pas possible. Hein. Il a mis les doigts dans la prise et puis il a rien. Et il y a des enfants, des fois, qui font des bêtises, ils sont en haut d'un arbre, on se demande comment ils ne se sont pas tués encore. Mais Dieu prend soin des enfants. Et Jésus nous dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Et que nous ne méprisions pas. Et qu'au contraire, nous soyons capables de réaliser qu'ils ont des besoins et qu'on ne les considère pas comme insignifiants. Ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Deuxièmement, que l'enfant dans cette église ne soit pas incompris. Que l'enfant ne soit pas incompris. Dans Matthieu chapitre 21, il est dit que, alors que Jésus est dans le temple, et les principaux sacrificateurs, vous avez le verset dans vos notes, les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils dirent donc à Jésus, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous pas lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants. Voilà donc des hommes religieux qui sont indignés parce que les enfants sont en train de louer le Seigneur. Est-ce que nous aussi serions-nous indignés parce que des enfants louent le Seigneur? Allô? Les enfants sont en train de louer Dieu. Et que sont-ils en train de dire? Hosanna au fils de David. Et si vous lisez le contexte, pourquoi ces enfants, d'où ont-ils sorti cette louange? Pourquoi ces enfants sont en train de dire Hosanna au fils de David? Parce que ça fait que quelques heures à peine, quand Jésus est rentré dans Jérusalem, il y avait toute la foule qui était en train d'acclamer Jésus, qui avait tapissé le chemin de leurs vêtements et de branches de palmiers, et qui s'écriait « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, Hosanna, au fils de David !» Les enfants ont vu cette scène. Les enfants ont entendu la foule acclamer le roi qui rentre à Jérusalem. Et alors que ces enfants retrouvent Jésus dans le temple, si les adultes, eux, ont arrêté de louer Dieu et ont arrêté d'acclamer Jésus, les enfants, eux, continuent et disent « Hosanna au fils de David ». Les hommes religieux trouvent ça malséant que des enfants puissent louer dans le temple. Mais Jésus leur dit « C'est écrit, c'est ce que Dieu veut. » Le prophète déjà a pu annoncer ces choses « Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants. » Laissez-moi vous dire que ça réjouit le cœur de Dieu lorsqu'il entend des enfants louer Dieu. Les enfants ne vont pas s'exprimer de la même manière que nous. Les enfants ne vont pas parler de la même manière, mais ils vont les faire d'une manière spontanée, sans manière. Ils vont rester naturels, sincères. Et des fois, les adultes que nous sommes, on ne comprend pas. On ne comprend pas toujours le langage de l'enfant. Mais Dieu, lui, il le comprend. Et qu'on puisse essayer, nous, de comprendre les enfants comme Dieu le comprend. Et qu'on puisse ne pas laisser des enfants incompris. Que l'enfant ne soit pas incompris. Troisièmement, que l'enfant ne soit pas rejeté. Et vous pouvez le noter, que l'enfant ne soit pas rejeté. Regardez dans Marc 10, Il est dit, on lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné. On a amené des petits-enfants vers Jésus, afin que Jésus puisse les bénir, puisse leur imposer les mains, puisse les toucher. Mais les disciples les ont empêchés, ont repris. Et Jésus va dire, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Voyez-vous, Jésus a été indigné par ce rejet. De la même manière dans l'Église, qu'il n'y ait pas de rejet, et qu'on ne dise pas non aux enfants, mais qu'on puisse les laisser s'approcher de Jésus, et que non seulement on ne les empêche pas de s'approcher de Jésus, mais qu'on puisse au contraire les amener à Jésus, les prendre par la main et les conduire vers Jésus. J'aimerais vous faire remarquer que dans Matthieu 18, alors que dans ce passage, au verset 10, on a lu tout à l'heure, gardez-vous de mépriser, le verset 11 dit, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Il est question de salut ici, dans le contexte des enfants. Alors que dans Marc 10, 13, il est question aussi de salut, dans le même contexte, lorsque Jésus parle d'enfants. C'est moi vous dire que Dieu veut sauver les enfants aussi, et qu'il y a une bénédiction, un salut pour chacun des petits, qu'il n'y a pas un désintéressement, mais que Dieu veut bénir le plus petit. Et de la même manière que dans l'Église, nous voulons que les enfants soient bénis, soient sauvés, soient bénis de la part de Dieu. Peut-être que ça surprend certains quand je dis ce matin que les enfants ont besoin d'être sauvés. Les enfants ont besoin de paix, ont besoin de pardon, ont besoin de Jésus, ont besoin d'être pardonnés, ont besoin de son secours et de son soutien. Et si nous ne parlons pas à un enfant de la grâce de Dieu, si nous ne lui parlons pas de l'œuvre de la croix, si nous ne parlons pas de ce que Jésus a fait pour lui, parce que c'est pour lui aussi que Jésus est mort sur une croix, mais quelque part, nous empêchons les enfants d'être bénis par Jésus. Nous devons amener les enfants de la même manière que les adultes, les amener à réaliser l'amour de Dieu à leur égard. Dieu a tant aimé le monde, les enfants y compris, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, les enfants y compris, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire qu'un enfant peut recevoir Jésus comme son sauveur, comme son Seigneur personnel, dès son plus jeune âge. Est-ce que vous le croyez? Mais si on ne leur dit pas, si on ne leur parle pas, si on les méprise, si on les rejette, on les empêche de s'approcher de Jésus. Que nous soyons de ceux qui les encouragent à s'approcher de Jésus, afin qu'ils fassent la paix avec Dieu. Quatrièmement, que l'enfant ne soit pas scandalisé. Si quelqu'un, toujours dans Matthieu 18, verset 6, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. J'ai jamais fait l'expérience d'avoir une meule de moulin attachée à mon cou et d'être jeté au fond de la mer. Dites-moi, on tient combien de temps? 3 minutes? 2 minutes? Et Jésus dit, il vaut mieux pour lui qu'il lui arrive ça, plutôt qu'il scandalise. Est-ce qu'on fait attention à ne pas scandaliser les enfants? Scandaliser. Mais comment un enfant peut-il être scandalisé? Un enfant est scandalisé devant l'attitude incorrecte d'un adulte. Est-ce qu'on fait attention à nos paroles devant les enfants? Est-ce qu'on fait attention à nos gestes? Est-ce qu'on fait attention à ce que nous sommes? Non? On peut dire de belles choses aux enfants, en disant aux enfants, tu sais, Jésus t'aime, il faut que tu sois sage, et puis ceci, et puis cela. C'est pas l'histoire du Père Noël, hein. Si tu es sage, tu vas avoir un cadeau. C'est pas ça le salut. C'est pas ça la Bible, c'est pas ça la bonne nouvelle que l'on apporte aux enfants. Mais notez bien qu'on peut dire de belles choses aux enfants, et si après, quelques minutes plus tard, l'enfant voit l'adulte qui lui a parlé d'amour, de paix, de joie, en train de se chicaner avec quelqu'un de l'église, en train de parler du mal de telle et telle personne, en train de se mettre en colère contre une situation, contre toutes sortes d'affaires, vous êtes en train, dans ce cas-là, de scandaliser un petit. Parce que l'enfant va dire, il y a quelque chose qui ne va pas. La personne qui me parle d'amour, la personne qui me parle de paix, la personne qui me dit qu'il faut que je croie en Jésus, que Jésus a de bonnes choses pour moi, cette personne-là est en train de faire le contraire de ce qu'elle annonce. Peut-être que les adultes sont capables de vivre avec ça. Peut-être que les adultes, et encore, je ne sais pas vous comment vous vivez, mais on n'aime pas trop avoir un double langage et entendre quelqu'un nous dire quelque chose et faire autrement. Bon, c'est vrai qu'avec les hommes politiques, on en a pris l'habitude. Mais ça ne marche pas comme ça dans l'Église. Les enfants peuvent être scandalisés par de telles situations. Non? Et Jésus dit, celui qui scandalise un petit, vaut mieux pour lui qu'on le jette au fond de la mer, plutôt que quoi? Plutôt qu'il subisse le sort que Dieu lui réservera. Dieu va lui redemander des comptes. Scandaliser l'un de ses plus petits. Est-ce qu'on fait attention à notre attitude envers les enfants? À ne pas les choquer? À ne pas les scandaliser? J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que là, on parle des enfants en âge, c'est vrai. Mais on pourrait aussi utiliser cette parole comme une métaphore pour parler des enfants spirituels. Comprenez, des nouveau-nés spirituels. Quand quelqu'un naît de nouveau, il est un bébé spirituel, un nouveau-né spirituel, et il grandit comme un enfant spirituel. Et en tant qu'Église, prenons garde à ne pas scandaliser ces enfants-là aussi. Et que ceux qui viennent dans l'Église depuis peu, que ceux qui découvrent la foi, qui découvrent Jésus, qui sont comme des enfants en train de découvrir et de grandir spirituellement, que personne ne scandalise l'un de ses plus petits, un de ses enfants. Qu'on puisse être attentif, je reviens aux enfants en âge, devant les enfants, qu'on soit attentif à ne pas les scandaliser, à veiller sur nos paroles, à veiller sur nos attitudes, à ne pas être trouvé menteur. Ça ne marche pas devant un enfant. Et un enfant se rend compte plus que vous ne croyez de ce qui est en train de se passer. Des fois, des parents ou des adultes qui parlent à demi-mot ou qui font juste un petit signe pour dire que l'enfant ne comprendra pas. Vous savez, les adultes qui commencent à parler en anglais pour être sûr que les enfants ne comprennent pas, mais ça ne dure pas longtemps. Même si les enfants ne comprennent pas les mots, ils comprennent qu'il se passe quelque chose là qui n'est pas correct et qui ne va pas. Et il faut faire attention, les enfants comprennent beaucoup plus que ce que vous ne pouvez le croire. Cinquièmement, que l'enfant ne soit pas perdu. Matthieu 18, 14, de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qui se perde un seul de ses petits. Dieu ne veut pas que les enfants soient perdus. Un enfant peut être perdu. Et qu'on puisse prier pour le salut des enfants. Et s'il y a dans cette Église un ministère de l'éducation chrétienne, un ministère du service de garde, c'est parce qu'on ne veut pas que les enfants soient méprisés, incompris, rejetés, scandalisés et perdus. Mais on veut les amener à Jésus. Au service de garde, à partir de 3 ans, on parle de Jésus aux plus petits. On ne dit pas, oh, à 3 ans, ils ne comprennent rien. Ils comprennent. Ils comprennent. Et on veut leur dire, avec leurs mots, avec les phrases, avec ce qu'ils sont capables de comprendre, évidemment, mais on veut leur dire qu'il y a un Dieu qui les aime et que Jésus veut être leur ami et qu'il est là pour les aider dans les défis de tous les jours. De même pour les enfants. S'il y a l'éducation chrétienne en bas, ce n'est pas pour se débarrasser des enfants. Peut-être que quelqu'un dirait, c'est bien pratique d'avoir l'éducation chrétienne en bas, comme ça les enfants ne nous embêtent plus. On est là tranquille, nous, entre adultes en haut, parce que les enfants, quand même, ça fait du bruit. Ça n'arrive pas à rester sur sa chaise, là, c'est trop long, ça bouge, ça a envie de faire autre chose, puis on ne peut pas leur donner des jouets, ça fait trop de bruit. Alors, plutôt que les enfants embêtent les adultes, et puis nous embêtent, nous, dans notre réunion, et dans notre confort. Si vous aviez un petit, là, de 3 ans, assis à côté de vous, imaginez, là, ce que ça ferait, là, maintenant, un petit de 3 ans, assis à côté de vous, dira, ah là, là, je pourrais rien entendre, je serais constamment en train de me dire ceci, ceci, cela, je veux faire ceci, je veux aller aux toilettes, je veux un bonbon, je veux manger, j'ai faim, j'ai... Non? Alors, est-ce qu'on met les enfants en bas pour s'en débarrasser? C'est pas comme ça que ça marche. On met pas les enfants en bas pour que nous, on soit plus confortables. Si les enfants sont en bas, c'est parce qu'on veut qu'ils soient bénis. C'est parce que le pasteur, il parle trop mal pour que les enfants comprennent. Et il faudrait qu'il soit plus court pour que les enfants puissent mieux comprendre, qu'il utilise des mots un peu plus simples pour que les enfants puissent mieux comprendre. Et puis, non, comprenez qu'il y a un langage adapté aux enfants. Et c'est justement parce qu'on veut que le message passe le mieux possible qu'il y a un enseignement spécial pour les enfants en bas. Comprenez que ce n'est pas une garderie, ce n'est pas un temps pour occuper les enfants pendant que les adultes sont en haut. C'est un temps pour que les enfants soient bénis. Il y a un temps de louange en bas, où les enfants louent le Seigneur. On a vu que les hommes religieux voulaient empêcher les enfants de louer le Seigneur. Mais nous voulons encourager les enfants à louer Dieu, à chanter, à prier, à élever la voix, à rendre grâce à Dieu. Et les enfants le font d'une manière spontanée. Il y a un temps de louange, il y a des temps de prière, il y a des temps où les enfants prient pour la guérison les uns des autres, pour un problème, pour une difficulté. Et nous savons que Dieu entend la prière des enfants. Il y a des temps d'enseignement où la parole de Dieu est enseignée aux enfants. Comprenez qu'il ne s'agit pas ici de leur apprendre les histoires de la Bible pour qu'ils connaissent la Bible par cœur et faire des vrais petits théologiens en disant « ils connaissent toutes les histoires maintenant ». Non, il ne s'agit pas de connaître l'histoire de David et Goliath, de Daniel dans la fosse aux lions, de Samson, et puis de dire « je connais l'histoire ». Ce n'est pas l'histoire, c'est Dieu. Qu'au travers de ces histoires, c'est Dieu qu'ils puissent connaître. C'est l'amour de Dieu, c'est la grandeur de Dieu. Et qui réalise que Dieu, ce n'est pas le Dieu de la religion, mais c'est un Dieu qui est là, tout proche de chacun d'entre nous, et de ses enfants aussi, et qui est là pour les aider, pour répondre à leurs prières, pour les soutenir, pour les encourager, pour les sauver. Et quand on réalise combien Dieu aime les enfants, on veut donner, nous aussi, le meilleur pour nos enfants. Et là, j'arrive à un point qui est peut-être moins agréable, mais pour dire que si vraiment nous sommes sincères, et si vous dites « Amen » à ce que je suis en train de dire ce matin, le « Amen » doit nous amener plus loin. Je veux dire par là qu'on ne peut pas simplement dire « Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, les enfants c'est important, mais moi je n'ai pas le temps de m'en occuper. Les enfants c'est important, mais que quelqu'un d'autre s'en occupe. Si les enfants c'est important, eh bien je vais m'investir. » Je vais me consacrer, je vais donner du temps pour m'occuper des enfants. Comprenez qu'on ne peut pas dire « la cause est importante, mais moi, je ne m'en occupe pas ». Je dis cela parce que trop souvent dans les églises, et puis dans cette église aussi, on a un mal fou à recruter des moniteurs, des monitrices pour l'éducation chrétienne ou des animatrices pour le service de garde. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cela? Est-ce qu'il faut comprendre que les enfants, ça n'intéresse personne, et c'est pour ça qu'on a du mal à recruter du monde? Parce que finalement, ce n'est pas notre problème, c'est le problème des mamans, elles n'ont qu'à se débrouiller avec leurs enfants. C'est ça? Que les mamans se débrouillent avec leurs enfants, après tout, c'est elles qui les ont faits, ce n'est pas notre problème, nous, on a eu les nôtres, maintenant... Il ne s'agit pas de ben, on est dans une église ici. On n'est pas au parti communiste où on va faire quelque chose de social en disant, on va de mutualiste en disant, bon, ben, chacun s'occupe, on s'occupe de nos enfants. On est là pour s'occuper des enfants des autres aussi. Pas dire, moi, je m'occupe des miens et puis que eux s'occupent des siens. Mais Dieu aime les enfants et tous les enfants. Et si on réalise ça, on va dire, mais moi aussi, je veux m'occuper des enfants des autres. Pouvoir leur apporter, leur parler de l'amour de Dieu. Pouvoir, dès le plus jeune âge, leur dire qu'ils sont aimés. Et je vous invite vraiment à réfléchir sur votre responsabilité et sur votre engagement au sein de l'éducation chrétienne et du service de garde, que ce soit Carole et Sylvie pour l'éducation chrétienne, ils embauchent. Particulièrement, ils ont besoin de personnes pour cet été. Pour cet été, pour donner un temps de relâche aux moniteurs et aux monitrices. Il y a besoin de quelques personnes. Oh, c'est pas lourd, c'est deux, trois fois dans l'été. Ils ont besoin de personnes pour la rentrée prochaine, mais pensez-y, c'est-à-dire pour septembre. Mais il faut y penser dès maintenant afin de se préparer pour pouvoir apporter quelque chose de bonne qualité à ces enfants en septembre. Au service de garde, il y a besoin de monde. Il y a besoin de personnes pour, pas pour garder les enfants, mais pour en prendre soin, pour leur donner de l'amour. Dites-vous bien, quelqu'un qui va au service de garde, il ne va pas là comme une corvée, il va là pour donner de l'amour à ses enfants. Et il y a des enfants qui ont besoin d'amour. Des enfants qui ont besoin, vous allez dire, oui, mais dans leur famille, dans leur maison, ils l'apprennent, ils le savent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a des parents, il y a des familles qui ont besoin qu'on les aide aussi pour apporter à ces enfants. Comprenez qu'il y a des enfants de familles qui viennent depuis pas longtemps dans l'église. Peut-être même qui viennent pour la première fois dans l'église. C'est des enfants qui ont besoin d'entendre parler de Dieu. Je connais malheureusement le cas, ça s'est déjà produit. Une famille qui vient à l'église, ils ont deux, trois enfants. Ils viennent à l'église, les enfants vont au service de garde ou à l'éducation chrétienne. Les parents disent, c'est bien là, ça me plaît, j'aime bien l'église, j'ai envie de continuer. Mais les enfants, eux, ils disent, ah non, nous, on ne veut pas y aller, c'est poche, on s'ennuie. Puis, comprenez que les enfants, là, les parents ont été bénis, mais les enfants n'ont pas été bénis. Et que des fois, dans ce genre de situation-là, c'est même toute la famille qui est privée de la bénédiction de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas assez bien occupé des enfants. Vous avez remarqué qu'un enfant qui est béni à l'éducation chrétienne, et ça aussi, j'ai bien des exemples là-dessus, des enfants, des fois c'est les parents qui n'ont pas trop envie de venir le dimanche matin. Ils disent, je suis fatigué. Puis c'est les enfants qui disent, moi je veux y aller. J'aime ça. On y va. Oh, mais la prochaine fois. Non, ce matin. Non? C'est pour ça que vous êtes là ce matin, parce que vos enfants vous ont dit, je ne veux pas louper ça. Mais comprenez que pour ça, il faut que les enfants aiment. Il faut que les enfants reçoivent. Et comprenez qu'il ne s'agit pas d'acheter au travers de programmes, il ne s'agit pas de donner aux enfants ce qui leur fait plaisir. Il s'agit de donner aux enfants l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la parole de Dieu. Je vous invite vraiment à considérer, et s'il y en a qui sont touchés ce matin, ben, à prendre contact avec Carole, avec Sylvie, prendre contact aussi avec Trina concernant le service de garde. Si on aime les enfants, il faut faire quelque chose pour eux. Vous dire aussi que dans l'avenir, c'est un projet, j'en ai déjà parlé, mais on en reparlera encore, pour aller aussi annoncer la bonne nouvelle aux enfants qui ne sont pas dans cette église. Des enfants qui sont dans les quartiers, qui sont dans des blocs appartements, des enfants qui sont des fois livrés à eux-mêmes et qui ont besoin d'entendre parler d'amour, d'entendre parler de Dieu. Et on veut aussi aller vers ces enfants. Et en conclusion, j'aimerais tout simplement dire que, vous savez, si Dieu prend soin de ses plus petits, à combien plus forte raison il prendra soin de vous aussi. Si quelqu'un aujourd'hui se sent, peut-être comme certains enfants se sentent comme incompris, se sentent comme rejetés, se sentent comme méprisés. Si quelqu'un peut-être ce matin se dit, mais moi je suis insignifiant et qui va s'occuper de moi ? Si quelqu'un ce matin dit, mais moi, je me sens coupable, je me sens trop faible, trop petit, Laisse-moi te dire que si Dieu prend soin de ses plus petits, il va prendre soin de toi de la même manière. Il va prendre soin de toi de la même manière. Et Dieu est celui qui, ce matin encore, veut te prendre par la main, veut t'encourager, veut t'amener plus dans sa présence encore, et veut t'amener à ne pas être perdu, mais être sauvé. On va prier quelques instants ensemble. Il est bon, Seigneur, d'être dans ta présence et de laisser ton Esprit Saint parler à nos cœurs ce matin encore. Nous disons, Seigneur, oui, qu'aucun enfant ne périsse dans ce lieu. Seigneur, mais que les enfants soient bénis de toi. Qu'on puisse entendre de bonnes nouvelles de ce qui se passe à l'éducation chrétienne, au service de garde. Puisse, Seigneur, se réjouir avec ces enfants qui sont guéris, qui sont bénis. Leurs prières sont exaucées, ces enfants qui sont remplis du Saint-Esprit, ces enfants qui sont visités par toi. Croyons, Seigneur, que tu veux encore faire de grandes et de belles choses parmi ces enfants dans cette Église. Et nous voulons prier pour eux, nous soucier de leur santé spirituelle. Seigneur, viens bénir les enfants dans cette Église. Toi, tu les aimes et tu veux le meilleur pour eux. Seigneur, donne-nous, à chacun d'entre nous aussi, de prendre soin de ces enfants à notre manière, avec ce que l'on est capable de faire, en peut-être donnant juste un sourire, juste une parole d'encouragement à l'un de ses plus petits, en travaillant avec le service de garde, avec l'éducation chrétienne. Puis, Seigneur, mette une pensée dans les cœurs, un appel particulier pour ces ministères. Seigneur, nous prions ce matin aussi pour ceux qui, comme bien des enfants, se sentent peut-être comme rejetés, comme méprisés, comme incompris ou perdus. Seigneur, ce matin, tu les aimes de la même manière que tu aimes ces plus petits. Puisse les encourager. Ta parole fasse du bien. Faire passer de la mort à la vie. Tu veux sauver ce matin, racheter, libérer, affranchir. Comme un enfant qui tombe et que tu relèves, tu es celui qui veut relever celui qui est tombé aussi. Oh, merci pour ton amour, ta grâce que tu as envers chacun d'entre nous. Ton nom soit béni, notre Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va conclure là notre réunion de ce matin.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.